Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons écouter les paroles de l'Ecclésiaste, ce sage de l'ancien temps. Et on va voir comment il nous parle de Dieu. Et la première lecture est dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 7 à 9. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur.
La deuxième lecture est dans l'Ecclésiaste ou Coëlette, chapitre 11, versets 7 à 12. Douce est la lumière, c'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse en elles toutes, mais qu'il se souvienne que les jours sombres sont nombreux, que tout ce qui vient est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence, marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité.
Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années dont tu diras « je n'y ai aucun plaisir », avant que s'assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent. Alors on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit et que le fruit du caprier éclate, car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité. Et déjà, les pleureuses rôdent dans la rue, avant que ne se détache le fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Vanité des vanités, a dit le Coëlète, tout est vanité. Ce qui ajoute à la sagesse de Coëlète, c'est qu'il a encore enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné, ajusté un grand nombre de proverbes. Coëlète s'est appliqué à trouver des paroles plaisantes dont la teneur exacte est ici transcrite. Ce sont les paroles authentiques.
Thank you.
minute 30. À peu près, hein. Aujourd'hui, c'est donc l'Ecclésiaste qui va nous parler de la parole de Dieu. C'est donc ce livre de l'Ancien Testament. Et jeunes et vieux, nous sommes tous interpellés par ce sage de l'ancien temps. Il déconcerte, fait réfléchir et apporte un message de sagesse tonique et constructif.
Il est vrai que les paroles de l'Ecclésiaste sont d'abord déconcertantes. Son livre ne ressemble à aucun autre dans la Bible. Il développe une originalité audacieuse et paraît démolir allègrement toutes les attitudes bien-pensantes, toutes les pensées réconfortantes. Abel, Abalim Amar Kohelet, Abel, Abalim Akol Abel. Comme une trompette sonne le thème d'introduction de quelque grandiose ouverture, Kohelet le sage déclare « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ».
Vanité, c'est le mot Abel en hébreu, qui signifie aussi souffle, vapeur, fumée. Tout s'évapore, tout part en fumée. Tout est absurde et inutile, tout est dérisoire. Kohelet, c'est le nom hébreu rendu en grec par Ecclésia, qui veut dire église. C'est le rassembleur, celui qui parle à une assemblée. C'est donc le sage prédicateur.
Et dès le début de son ouvrage, le sage paraît être au fond de la déprime. Il va jusqu'à dire être dégoûté de la vie, lui qui peut tout posséder. Au chapitre 2, verset 17, il dit « En effet, je trouve la vie détestable, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. »
Inutile, injuste, absurde, ce sont des mots forts qui résonnent, qui claquent. Peut-être aurait-on envie, pour ne pas déprimer, de fermer ce livre. Le sage fait une telle description de la réalité, il semble avoir tout vu, tout observé, et sa constatation est que rien ne va bien, que rien ne vaut la peine d'être vécu, ou encore cette célèbre phrase « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». L'Ecclésiaste serait-il un horrible pessimiste, un défaitiste suicidaire ?
Ce serait une erreur de le penser. Car à regarder de plus près l'ensemble du livre, en poursuivant la lecture, nous trouvons des invitations à la gaieté, à la joie, des hymnes à la joie. Par exemple au chapitre 8, verset 15, « Et je fais l'éloge de la joie, car il n'y a pour l'homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire et de se réjouir, et cela l'accompagne dans son travail durant les jours d'existence que Dieu lui donne sous le soleil. »
Ou encore, au chapitre 9, les versets 7 à 9, « Va, mange avec joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car déjà Dieu a agréé tes œuvres. Goûte la vie avec la femme que tu aimes. » Et ça, ce ne sont pas des paroles d'un déprimé. Ces hymnes entrecoupent les constatations sévères par 9 fois dans l'ensemble du livre.
Et dans ces invitations, nous trouvons la mention de Dieu. L'Ecclésiaste n'est pas un athée ou un sceptique, il est profondément croyant. 37 fois, il parle de Dieu. 37 fois, nous voyons apparaître le nom de Dieu comme un phare dans la nuit, éclairant les marins.
Nous touchons là au cœur du message de l'Ecclésiaste. Il sait qu'au debout du tunnel, il y a la grande lumière. Il proclame sa foi en un Dieu créateur, en Dieu rétablissant la justice. Sa foi brille malgré l'obscurité du tunnel de la vie et de la mort.
L'Ecclésiaste n'est donc pas ni un pessimiste, ni un optimiste, ni un profiteur assoiffé, ni un cynique désabusé, ou tout ce que l'on a pu dire de lui au cours des siècles. C'est un homme sage et humble qui essaie de regarder objectivement la réalité. Sa foi ne l'aveugle pas. Il observe le monde en spectateur, un monde dur et cruel, et il constate la difficulté de l'existence.
Thank you. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Christophe Jubien est à la technique et nous écoutons des quartettes de flûte de Mozart. Nous étions donc en compagnie de l'Ecclésiaste, ce sage de l'ancien temps, qui observe le monde en spectateur et qui constate la difficulté de l'existence, mais il va même plus loin. Et c'est sans doute ce que lui ont reproché bien des gens. Les écoles rabbiniques, déjà, se querellaient pour savoir s'il devait faire partie du canon. Et bien des premiers commentateurs chrétiens ont sélectionné, enrobé, arrangé, et même expliqué en les édulcorant, voire en en transformant radicalement le sens, des passages de l'Ecclésiaste.
Et l'Ecclésiaste, c'est vrai, choque, parce qu'il refuse et dénonce même les solutions faciles habituellement adoptées. Il fait le procès des recettes habituelles du bonheur, la grande richesse, le travail acharné, l'oisiveté, la débauche insensée, bien sûr, mais même la sagesse traditionnelle. Il conteste leur efficacité avec des images flash et des mots chocs.
On dirait qu'il veut montrer la noirceur du tunnel à tous ceux qui s'aveuglent facilement. Il veut rendre les gens insatisfaits, assoiffés. Pourquoi ? Eh bien, pour que, comme lui, ils cherchent autre chose. Pour qu'ils se rendent compte que la clé de la vie n'est pas dans la vie elle-même. Que le sens de la vie n'est pas dans la vie elle-même. Ni la nature, ni l'histoire, ni la sagesse humaine ne peuvent donner la clé de la vie, ne peuvent donner son sens.
L'Ecclésiaste étale alors l'étendue de nos pourquoi. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi moi ? Pourquoi vivre ? Pourquoi mourir ? Les réponses ne se trouvent pas en l'homme. Il refuse même de les trouver dans une doctrine ou dans la religion. Il ne sait qu'une chose, la réponse à nos pourquoi, la clé de l'univers, se trouve entre les mains de Dieu, créateur et guide de nos existences.
Seule la confiance, la foi en Dieu, peut nous permettre de vivre pleinement. C'est une foi pure et solide qui traverse toutes les découvertes du sage. C'est elle qui maintient le cap de la route. Et elle rassemble en elle toutes les dynamiques, souvent contradictoires, des différentes maximes de sagesse.
Et comme souvent dans les livres de sagesse biblique ou dans d'autres livres de la même époque, les conseils ou les affirmations peuvent se succéder en désordre et parfois même en opposition.
Car le propre de l'insensé, on peut prendre au sens propre celui qui agit sans comprendre le sens de la vie. Le propre de l'insensé est de tomber dans l'excès. Il y a le trop riche, le trop prudent, le trop sage, le trop effervescent. Tous recherchent dans leur domaine un absolu dont le cœur humain a soif.
Mais tous se trompent alors, car cet absolu, cette certitude, cette foi, ils ne peuvent les placer bien qu'entre les mains de celui qui a mis dans leur cœur cette soif d'absolu, cette pensée d'éternité, entre les mains de Dieu, leur Créateur. Thank you.
L'Ecclésiaste nous dit, au chapitre 3, versets 10 et 12, « Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. »
Comme nous l'avions évoqué précédemment, plus que par vanité, qui a une connotation méprisante et d'ordre moral, le mot « Abel », qui revient constamment dans le livre, devrait être traduit par « vapeur »,« souffle », »,« fumée », ou lorsqu'il est sous forme d'un adjectif, par « inutile », »,« dérisoire », »,« éphémère ».
Ce n'est pas le néant ou l'absurde, relevant de la philosophie existentialiste. L'Ecclésiaste mesure simplement la fragilité de l'existence humaine. Il amène à réfléchir et à se placer en face de Dieu comme celui qui tient la clé de la vie, son sens, le plan secret.
L'air désabusé du sage n'est là que pour nous inciter à cette recherche profonde, peut-être coûteuse même. Elle mène à l'humilité. Il en découle aussi une certaine éthique, une pratique de vie quotidienne.
Cette pratique se veut être un équilibre de vie. Dans le domaine financier, dans le travail, dans la recherche intellectuelle, ne faites pas d'excès. Pour l'humilité et parce que l'excès est vain et absurde. Qui veut tout posséder est dégoûté de tout. Qui veut tout comprendre ne saura plus qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien. L'absolu est en Dieu et en lui seul. Nous devons vivre dans un équilibre toujours à maintenir.
Une autre caractéristique de cette pratique est qu'elle est la mise en avant du présent. Qohélète refuse la fuite dans le passé ou dans le futur. Aux jeunes comme aux vieux, il dit « Vous êtes fragiles, vous ne connaissez pas le lendemain. Prenez aujourd'hui le temps de vivre pleinement sous le regard de Dieu. »
Les jeunes n'ont pas à dire « j'ai bien le temps d'y penser ». Ils croient que la vie est infinie. Mais lui rendre ses limites, c'est lui redonner de la consistance. L'avertissement final de Qohélète aux jeunes, loin d'être rébarbatif, est un conseil de vie. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux en ce temps-là. Mange et bois, aime la femme de ta jeunesse, n'oublie pas celui qui t'a créé, travail. C'est le temps d'utiliser sa force et de se réjouir, de travailler au service de Dieu et de recevoir les dons de la vie.
Qohélète prône le bonheur simple du présent et de la lumière du jour. Un bonheur à façonner, à goûter, sans oisiveté, puisqu'il insiste aussi sur le travail. Il prend au sérieux le présent. Demande de refuser les utopies idéalistes du « tout ira mieux quand » ou de refuser aussi les regrets du « tout allait bien mieux avant ». Ce qu'il veut avant tout, c'est que nous sachions saisir notre présent et en tirer le meilleur parti possible. Que nous soyons en fait vraiment présents à notre présent.
« Ne vous souciez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine », dira plus tard Jésus en écho. Dans un monde difficile, il est urgent d'être heureux sans être aveugle. La vie est un fil d'argent, un vase fragile, précieux, sous le soleil de Dieu.
Devant la faillite des sages, les déceptions de l'existence, l'inconsistance de tout bien, l'homme reste insatisfait. Il a soif d'absolu. Il aspire à la révélation de sa place dans l'univers et du sens de sa destinée. Coëlette montre courageusement et presque scientifiquement que l'institution en matière de foi laisse béant l'abîme à nos pieds. Seul l'événement du Christ pourra le combler.
Et cet événement du Christ montre, lui, qu'il y a du nouveau sous le soleil. Car depuis, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il est venu, lumière et parole. Christ transforme nos vies, nous donne à en goûter la saveur. Même si nous ne pouvons pas encore la saisir, il nous fait toucher du doigt la clé de l'existence. Il nous aide à placer toute notre confiance en Dieu, ce Dieu qu'il révèle plein de tendresse. Il nous faut, en toute liberté, la liberté de Dieu, travailler et nous réjouir de l'instant présent qu'il nous donne chaque jour. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple Varu Saint-Thomas à Chartres. Nous serions très heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Thank you.